rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous. Des séries, il y en a à foison, sur les chaînes, les plateformes. Et il n'est pas toujours facile de choisir laquelle regarder. Aujourd'hui, nous sommes quatre passionnés de séries et nous allons vous présenter les dernières séries qui nous ont enthousiasmés. On espère que vous partagerez notre engouement. Aurore a sélectionné deux séries, La Roue du Temps et Si. Nathalie, deux également, Battlestar Galactica et Arcane. Jessie, une série américaine, Designated Survivor. Et pour ma part, deux séries qui mettent toutes les deux en scène un journaliste, mais dans des genres très différents, Tokyo Vice et Le Monde n'existe pas. Et nous allons commencer avec La Roue du Temps, dont voici la bande-annonce.
La roue du temps tourne. Et les âges naissent et meurent. Laissant des souvenirs destinés à devenir légendes. Ce pouvoir en toi porte différents noms à travers le monde. Mais c'est le même. Le pouvoir de l'unique. Nous, les femmes qui le canalisons, nous protégeons le monde.
Peu importe ce qui arrive. Peu importe la souffrance. Ou le chagrin. La roue continue de tourner.
Le ténébreux cherche des amis.
Ultime bataille approche. Tout va dépendre de ce que tu feras. Désormais, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons plus faire marche arrière.
Et oui, à la base, La Roue du Temps, aussi connue sous son nom original en anglais, The Wheel of Time, est une série de 14 romans. Les 11 premiers sont l'œuvre de l'auteur américain Robert Jordan, et les 3 derniers ont été écrits par un autre auteur qui s'appelle Branson Sanderson, après la mort de l'auteur originel, et en suivant les notes qu'il avait minutieusement laissées. Pour être honnête, moi j'ai jamais lu les romans, 14 volumes, sérieux, c'est beaucoup trop pour ma palle qui déborde déjà, mais on m'a souvent, enfin plusieurs fois en tout cas, fait la réflexion à propos de la trilogie fantasy que j'ai écrite, l'Oneida, que certains aspects faisaient penser à La Roue du Temps, donc ça m'a toujours rendue très curieuse à propos de cette saga, et heureusement, Prime Video a entendu mes suppliques et a créé en 2021 la série télévisée. La Roue du Temps. Alors, dans cette série, les Aes Sedai forment une organisation puissante de femmes capables de canaliser et d'utiliser la magie. Ce don est exclusivement réservé aux femmes formées par l'ordre. Moiraine Sedai est l'une d'entre elles. Accompagnée par son champion, Lan, qu'on a aussi entendu dans la bande-annonce, on l'a entendu lui et on l'a entendu elle beaucoup, elle prend sous son aile 4 jeunes d'apparence ordinaire provenant d'un petit village de montagne qui s'appelle Deux Rivières. Ce village a été détruit à la suite d'une attaque des forces du Ténébreux. Alors, le Ténébreux, vous l'aurez compris, c'est l'entité maléfique par excellence et il cherche à détruire la trame du temps ou la roue du temps. Parmi les 4 jeunes que Moiraine tente de protéger, l'un d'eux pourrait bien être la réincarnation du dragon. Le dragon, c'est un ancien héros et puissant canalisateur de magie qui, selon la prophétie, aurait la capacité de sauver le monde ou de le détruire. Mais sur la route de la Tour Blanche, les dangers sont nombreux et les créatures du ténébreux guettent. Alors bien sûr, j'ai déjà une appétence très marquée pour les récits de fantasy et de magie, vu que j'en écris moi-même, mais j'avoue que là, j'ai vraiment été bluffée par cette histoire. Flattée aussi que certains lecteurs aient pu comparer ce que j'ai écrit moi à La Roue du Temps, parce que pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. À chaque rebondissement, à chaque nouvelle découverte, je crois que je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'aurais aimé inventer cette histoire, en fait ?» Enfin, j'ai trouvé ça prenant, surprenant, c'est bien pensé, c'est complexe, et en même temps, c'est pas tordu. Après, je pense aussi que l'interprétation du personnage de Maureen Sedai par la délicate mais charismatique Rosamund Pike y joue beaucoup. Elle et son champion constituent un duo équilibré qui porte le récit de ces quatre jeunes, aussi différents que complémentaires, les uns des autres. À la fois, c'est un récit initiatique, un récit d'aventure, un récit épique. Et je pense que La Roue du Temps saura vous séduire par ses nombreuses facettes. Le tout réalisé avec pudeur et respect. Voilà, on n'est pas dans Game of Thrones où chaque scène et de dialogue est entrecoupée de scènes de cul ou de violences sanguinolentes. Voilà, vous êtes ici dans un univers bien sombre, certes, mais filmé pour un public ado-young adulte. Et on apprécie aussi la suggestion plutôt que l'état brut, hein, parfois.
C'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vraiment pensé à Noneida.
Ah ouais ?
Ouais, l'univers est très proche, je trouve.
C'est marrant parce que du coup, je les avais pas du tout lus. Enfin, j'en avais jamais entendu parler, moi, au moment d'écrire. Mais bon, écoute, merci quand même. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai presque envie de me lancer dans la lecture de ces 14 tomes, finalement. Parce que actuellement, il n'y a que deux saisons de la série qui sont sorties. La prochaine est prévue pour début 2025, sans date de sortie précise. Je ne sais pas si je vais réussir à attendre jusque-là pour savoir la suite. Eh bien, Anne, tu vas nous parler, toi, de Tokyo Vice, et du coup, on va écouter le générique.
C'était le générique de Tokyo Vice, une série américaine produite par Michael Mann, qui est adaptée de l'essai autobiographique de Jack Adelstein, publié en 2009 aux États-Unis et en 2016 en France. Elle retrace le parcours du journaliste Jack Adelstein, qui intègre à 24 ans un grand quotidien japonais dans les années 90. Et c'était le premier occidental à avoir été embauché. Il avait en charge les faits divers et couvrait les affaires liées à la prostitution et aux crimes organisés. Alors qu'il est loin de maîtriser les codes de ce pays bien différent de son Missouri natal, ses investigations le mènent rapidement dans les bas-fonds de Tokyo. Il est vite approché par les Yakuza. Il devient leur interlocuteur favori, tout en travaillant en étroite collaboration avec la police, pour laquelle il devient vite un informateur précieux. Une position assez inédite et ambivalente aux frontières du crime, qui force Jack Adelstein à entrer dans un jeu dangereux. On fait avec le journaliste novice une plongée vraiment saisissante dans les dessous de la pègre japonaise, au cœur de leurs traditions et des guerres de clans. C'est un voyage hypnotique et quasi documentaire, bien loin des clichés habituels, où l'on va suivre plusieurs personnages en fonction de ses rencontres, des amitiés vont se nouer, et au fil des épisodes des deux saisons, chaque personnage gagne en densité et en humanité. Les personnages féminins ont aussi une place importante, comme Samantha, une jeune hôtesse américaine de bar de luxe, tiraillée entre la mafia et la police. J'ai adoré l'absence de manichéisme, où le flic incorruptible est aussi attachant que le jeune yakuza sensible. Les personnages sont charismatiques et intenses, et le héros, comme il bénéficie de son statut de geijin, l'étranger, on se confie plus facilement à lui, il casse les codes et il peut être proche des deux côtés, sans renier son ambition de révéler des scandales. Tokyo Vice décrypte intelligemment les relations étroites entre la police, la presse et la mafia. C'est une police gangrenée par la corruption, des yakuza tout-puissants aux méthodes ignobles, des guerres fratricides entre gangs, des politiciens aussi dépassés et souvent complices, comme pour les médias, coincés entre quête du sensationnel et soutien au système, et peu habitués à remettre en cause l'ordre établi, souvent par soumission à la pression. À la fois récit initiatique, enquête journalistique et polar mafieux, cette série donne vie à un monde complexe et fascinant. Visuellement, c'est très beau, l'esthétique des scènes nocturnes est sublime et l'ambiance est sombre et mélancolique à la fois. On y a une dynamique de suspense, mais également dramatique. Et j'ai été captivée par ce thriller noir d'investigation. J'ai hâte de voir la troisième saison. On va passer à une série de science-fiction maintenant. Écoutons la bande-annonce de Battlestar Galactica.
Par la grâce du Seigneur des Kobolds, le Galactica continue à conduire les survivants en direction de ces lumières qu'un jour il nous a été donné de voir et qui ont disparu tout à coup sans autre explication. Certains pensent que ces lumières, peut-être celles des vaisseaux intergalactiques, viennent de la Terre. Ce qui nous donnerait alors l'espoir, le grand espoir qu'ils ont atteint un degré très avancé de technologie. Jusqu'à présent, hélas, rien dans notre long voyage ne nous laisse croire que nous puissions cesser nos investigations et que nous ayons trouvé ce que nous cherchons.
Alors, on vient d'écouter la bande-annonce de Battlestar Galactica, mais la version des années 70, qui a l'air super. Mais moi, je vais vous parler de la version de 2004. Mais ça n'a pas l'air d'être très éloigné. Alors, la version de 2004 de Battlestar Galactica avait marqué les esprits dès sa première diffusion. Et pour moi, elle redéfinit le genre de la science-fiction à la télévision. Elle mêle habilement action, politique, philosophie et introspection. Elle a été créée par Ronald D. Moore, qui est aussi connu pour être à l'origine de la série plus récente, mais tout aussi géniale, For All Mankind. Au cœur de l'histoire, nous suivons l'équipage du vaisseau Battlestar Galactica, un vaisseau militaire chargé de protéger une flotte transportant les derniers survivants de l'humanité, dont le foyer a été détruit par des robots créés par l'homme. Des robots qui font d'ailleurs très très peur. Mais derrière ce cadre futuriste, c'est avant tout une question de survie qui se pose. Et c'est là que la série brille. Elle met en scène des personnages profonds et humains, avec leurs doutes, leurs failles, leurs ambitions et leurs luttes intérieures. La série a une distribution d'ensemble et le casting est très efficace. On y trouve des figures de commandement comme le capitaine William Adama, incarné par Edward James Olmos, ou encore Laura Rosing, qui est une enseignante qui est devenue présidente de l'humanité, jouée par Mary McDonnell. On s'attachera rapidement aux personnages et on craint très régulièrement pour leur vie, ce qui donne un intérêt supplémentaire à la série. Battlestar Galactica, c'est bien plus qu'un simple space opéra. On est loin des clichés des vaisseaux spatiaux et des batailles entre humains et robots. La série propose une réflexion plus profonde sur la nature humaine, sur la survie et sur la question fondamentale de ce que cela signifie d'être vivant. La série aborde en effet des concepts philosophiques majeurs, la foi, le libre arbitre, la rédemption et le rôle de la technologie dans nos vies. Il faut savoir que ces questions sont posées à la fois du côté des humains et du côté des robots. Donc on se demande comment l'humanité réagirait-elle face à une menace existentielle ou comment maintenir son humanité dans un contexte où tout semble perdu. L'autre point fort de la série, c'est aussi son ambiance. Le ton est souvent sombre, ce qui renforce l'aspect de tension constante. Malgré ses thématiques lourdes, la série n'est jamais une série déprimante. Elle parvient toujours à offrir des moments d'espoir, d'humanité et même d'humour. Il y a des vaisseaux vieillissants, des paysages glacés, des planètes et une bande-son magistralement composée par Bir McCreary qui crée une ambiance, une atmosphère immersive qui plonge immédiatement le spectateur dans l'univers de la série. Alors attention, les effets spéciaux ont un peu vieilli, ça pique un peu les yeux, mais on n'y fait presque pas attention tant la direction artistique est foisonnante. Ce que l'on retient surtout après avoir vu la série, c'est cette idée que l'homme, même dans ses pires moments, reste toujours capable de se relever, de se réinventer, de chercher un sens à son existence, même face à l'impossible. Battlestar Galactica est donc une série exigeante, parfois même dérangeante, mais qui ne laisse jamais indifférent. Si vous aimez les récits profonds qui questionnent notre monde et notre avenir, vous êtes au bon endroit. Donc elle est actuellement disponible sur Prime Video. Attention, avant de se lancer dans les 4 saisons d'épisodes de 45 minutes, il y a une mini-série de 2 épisodes de 90 minutes à regarder.
Merci Nathalie. Moi je suis assez fan de Space Opera. Et en même temps tu parles des effets spéciaux un peu vieillissants. En vrai le Space Opera en soi, il y a un côté très rétro. Donc c'est même peut-être fait exprès. Enfin, on pourrait même presque avoir cette impression-là.
Surtout que quand, dans le vaisseau, le Battlestar Galactica, on sait qu'il ne s'attache pas à devenir un vaisseau très très moderne. Tout est en réseau interne, il n'y a pas de radio, trop de radio à l'extérieur, etc. Parce qu'ils ont peur de se faire pirater par les robots. Donc oui, il y a quelque chose de très rétro, même dans le fonctionnement même du vaisseau. Et c'est fait exprès.
Impeccable. En tout cas, moi, je vais aller regarder ça. Et du coup, les 2 épisodes de 90 minutes s'appellent pareil ?
Oui, 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 mais on les trouve difficilement sur Prime. Du coup, on se fait un peu avoir. On commence par
la saison 1.
On commence par la saison 1. Et en fait, non, il faut vraiment regarder les 2 épisodes d'avant. Sinon, on rate tout l'intérêt de la série.
Ok, noté.
Alors, on va passer à la série suivante. Jessie va nous parler de Designated Survivor. Et on va écouter la bande-annonce.
Perpétuer le rêve américain, hérité de nos pères, de nos mères, de leurs parents, aidés.
S'il vous plaît, Mike, dites-nous ce que vous savez. Le Capitole a subi une attaque. Eagle est mort. Le Congrès, le cabinet, personne n'a survécu. Monsieur, vous êtes désormais le président des États-Unis.
Kiefer Sutherland est de retour pour sauver l'Amérique.
Et oui, c'était la bande-annonce de Designated Survivor. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette série ? Parce qu'en fait, je l'ai adorée, tout simplement. Elle est captivante, elle a cartonné aux États-Unis. Par contre, en France, c'est un petit peu plus léger, le décollage. Donc, j'espère que je vais motiver un peu plus de monde à la regarder. Imaginez, vous êtes un membre du gouvernement, il y a un attentat qui survient et tout le gouvernement est décimé. Il ne reste plus que vous. Vous êtes le seul survivant. En fait, l'histoire du film, enfin de toute la série, c'est ça. On se demande du coup qui peut reprendre les rênes du pays. C'est notre personnage principal, un homme ordinaire, un simple ministre, je crois, des affaires des bâtiments historiques du pays, propulsé au sommet du pouvoir en une seule soirée. Incarné par Kiefer Sutherland, ce personnage nous fait découvrir les coulisses du pouvoir et les enjeux d'une nation qui est en crise. Dès le premier épisode, Designated Survivor nous plonge dans un univers où chaque décision compte. C'est à la fois un thriller politique et un drame profondément humain. Les manœuvres politiques et les intrigues se mêlent pour créer une atmosphère palpitante. On se demande constamment jusqu'où ira ce personnage pour protéger son pays et à quel prix. La série aborde des questions d'actualité, comme la sécurité nationale, la transparence du gouvernement et la lutte du pouvoir. Tout ça sans jamais tomber dans aucun cliché. Les personnages sont complexes, avec des relations personnel et interpersonnel, ajoutant une dimension émotionnelle qui enrichit l'intrigue. Niveau réalisation, les scènes sont bien construites, la bande-son crée une tension palpable, le public est maintenu en alerte tout au long des épisodes. Pour résumer, Designated Survivor est une série captivante qui interroge et divertit aussi. Si vous cherchez un bon mélange de suspense et de réflexion, ne passez pas à côté de cette pépite. Préparez-vous à être surpris par le rebondissement et à questionner vos propres opinions sur le pouvoir. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment d'actualité. Avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est vraiment le moment de le regarder. Voilà. Et du coup, on va enchaîner avec Aurore qui va nous parler de Si. Et tout de suite, on va écouter le générique.
Thank you.
Eh bien, moi, personnellement, j'adore le générique de la série Si, parce que je trouve qu'elle véhicule quelque chose de très épique et de dramatique à la fois. Donc, merci Anne d'avoir choisi ce morceau pour présenter la série. Série américaine tournée au Canada, d'ailleurs, de Vancouver à Toronto, ça fait déjà une belle traversée, et diffusée sur Apple TV+. Alors, l'histoire prend place dans un univers de science-fiction post-apocalyptique. 600 ans après une catastrophe mondiale, les êtres humains revenus à l'état primitif ont tous été décimés par un virus, enfin, tous, pas tous, mais la majeure partie a été décimée par un virus et a rendu les survivants aveugles. Voilà, tous sauf... Ah, j'y reviendrai. Les descendants de ces survivants se regroupent en tribus et en cités, rivales les unes des autres, évidemment, et érigent la faculté visuelle au rang de légende. Les voyants sont considérés comme des sorciers et donc dangereux. Baba Vos, le chef de l'une de ces tribus, interprété par nul autre que Jason Momoa, accueille chez lui une femme enceinte perdue dans les bois, Magra. C'est son prénom, je précise parce que c'est pas évident. Voilà, il la protège, il l'épouse, et il adopte même les jumeaux qu'elle met au monde quelques mois plus tard. Vraiment, il les considère comme ses propres enfants. Mais les traqueurs de sorciers lancés par la reine Kane ne tardent pas à les attaquer. Toute la tribu fuit le village à la recherche d'un abri sûr. Et il semble que le père biologique des jumeaux, un voyant, donc potentiellement considéré comme un sorcier, est tout préparé pour la fuite de ses enfants et du village. La tribu s'enfuit alors, mais les voyants restent toujours une menace pour l'espèce humaine et la traque au cœur du royaume de Payan ne fait que commencer. Dans cet univers bien étrange, les non-voyants ont toujours vécu ainsi et je vous assure qu'ils n'ont pas grand-chose à envier aux voyants. Jason Momoa est bien connu pour ses rôles de guerrier et de protecteur et il n'échappe pas non plus ici à son image dans cette série où la violence est monnaie courante et où les guerriers sont plus habiles que jamais. La vue peut même devenir un handicap qui rend le guerrier lent, trop confiant ou même bruyant, donc vulnérable aux attaques. C'est tout un monde nouveau qui s'ouvre devant nous avec cette série. Des nouveaux modes de communication, des organisations nouvelles, barbares pour la plupart, mais le monde d'avant, le nôtre en réalité, ne l'était-il pas tout autant ? À travers ces trois saisons et les pérégrinations des jumeaux et de leurs parents, ce sont les valeurs d'aujourd'hui qui sont remises en cause. Derrière l'apparente violence de la série, ce sont des réflexions profondes sur nos sociétés, sur les technologies inventées au fil des siècles et sur la véritable évolution à laquelle elles nous conduisent presque inéluctablement. Alors si, pour moi, je dirais que c'est une série pour les voyants au cœur bien accroché, mais aussi pour les âmes sensibles à l'esthétisme, car si les locaux sont souvent délabrés, voire crasseux, les tenues et les coiffures sont quant à elles plutôt soignées. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on doit se laisser aller. Personnellement, même face à un miroir et avec un tuto, je n'arriverai pas à me tresser les cheveux comme les reines de Payan. Cela dit, ce que j'apprécie aussi, c'est que il n'y a que trois saisons, il n'y en aura pas de quatrième a priori, et à la fin de la troisième saison, eh ben on a une vraie fin pour chaque personnage important. Et je trouve que c'est de plus en plus rare aujourd'hui d'avoir une série qui se termine vraiment, qui n'est pas non plus, qui ne s'éternise pas, et pour lesquelles voilà, chaque personnage a une fin qu'il mérite. Je veux dire ça comme ça, sans spoiler. Voilà. Eh bien, on va passer à Anne avec la série, la bande-annonce du Le Monde n'existe pas.
La petite ville de Guerre-sur-Isoire est toujours sous le choc de l'assassinat de cette jeune fille de 16 ans.
Vous pensez qu'Axel Schall peut être innocent ?
Dans la vraie vie, quand tout accuse quelqu'un, c'est rarement une fausse piste.
Je suis journaliste pour Aujourd'hui, Demain.
Vous croyez que vous allez faire éclater un complot ?
Axel m'avait averti qu'un jour, un homme viendrait peut-être.
Ça fait presque 20 ans que je suis pas revenu. À chaque coin de rue, j'ai des souvenirs qui me remontent comme des nausées.
T'es prêt à tout pour sauver le cul d'Axel Schall, hein ?
Quelqu'un nous raconte une histoire.
Le Monde n'existe pas. C'est une série, une mini-série, déployée sur 4 épisodes de 50 minutes. Elle est réalisée par Erwan Leduc, un cinéaste singulier, auteur de l'excellente comédie délicieusement absurde Perdrix, en 2019. Et on y retrouve ici son sens du surréalisme et de la tragicomédie. Il adapte le roman éponyme de Fabrice Imbert, publié en 2020. Mais alors que l'intrigue du roman se déroulait dans le Colorado, Erwan Leduc la déplace dans un bassin minier près de Lens, dans une ville au milieu de nulle part. Notre héros est Adam Volman, et il est interprété par Neil Schneider. Et rien que pour cet acteur, la série vaut le détour. Il est aussi charismatique que dans D'argent et de sang, dont j'ai parlé à la dernière émission. Il est journaliste web, sa vie est chamboulée quand un fait divers survient dans la ville de son enfance. Une jeune femme nommée Lola Montes y aurait été tuée et le tueur présumé Axel est l'ancien amoureux d'Adam, jadis le garçon le plus populaire du lycée et champion de tennis. Convaincu de son innocence, il se débrouille pour couvrir l'affaire et retourne dans sa ville natale où il se retrouve confronté à des souvenirs douloureux, son passé d'ado harcelé. Il retrouve même ses harceleurs et les proches de la victime et du présumé coupable au comportement des plus surprenants. En effet, ils sont tous perturbants et perturbés. Les témoins se contredisent eux-mêmes, les repères volent en éclats, les fausses pistes se multiplient, et plus l'enquête avance, plus les éléments se complexifient au lieu de se dévoiler. Désorienté et obnubilé par cette affaire, le héros rencontre une galerie de personnages fantasques, à l'image d'un chien prénommé Foulcan, où l'épouse du principal accusé, jouée par Maud Weiler, tout en ambiguïté et sarcasme. La série brouille la frontière, parfois ténue, entre la réalité et la fiction, et tout s'entremêle dans une trame discrètement cauchemardesque, où s'insèrent de façon audacieuse des flashbacks. Elle interroge le rapport au réel, à la manière dont la narration se façonne. Et si la vérité n'était rien d'autre qu'un mensonge, à qui appartient le récit de la vérité? La justice, la police ou les chaînes d'infos? C'est trouble, opaque, avec des touches d'onirisme et de réalisme magique. On peut y voir d'ailleurs une lointaine parenté avec Twin Peaks. Et la BO de Julie Rouet, qui a été récompensée au dernier festival Sérimania, joue ici un rôle capital dans la création de cette atmosphère d'inquiétante étrangeté. Le monde n'existe pas nous parle aussi d'homophobie, d'humiliation, de deuil, du marasme autour de la disparition de cette jeune adolescente et d'une ville hantée par ses secrets et assoiffée de violence. Cette série questionne, tout en laissant au spectateur le choix entre la comédie et l'anxiété, toujours sur le mode du thriller. Le ton est toujours entre l'humour et la noirceur, mais il y a les deux en fait, et grâce à la mise en scène d'Erwan Leduc, qui filme le personnage et décor avec juste ce qu'il faut de distance pour laisser pointer l'ironie, et assez d'attention quand même pour permettre l'empathie. J'espère que, comme moi, vous vous laisserez séduire par cet univers teinté de folie douce qui distille un beau suspense. On va rechanger de genre maintenant, grâce à Nathalie et la série Arcane. Et écoutons la superbe BO d'Imagine Dragons. That allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest. For my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called, I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery, everybody wants to be my enemy.
Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is your
everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to.
Produite par Riot Games, les créateurs du célèbre jeu League of Legends, Arcane n'est pas une simple adaptation de jeu vidéo. C'est une œuvre à part entière, une plongée fascinante dans un univers richement construit, où se mêlent tensions politiques, luttes de pouvoir et questionnements profonds sur la société et la nature humaine. Dès le premier épisode, Arcane nous emmène dans un univers vibrant et contrasté entre les villes de Piltover et Zone. Ces deux cités sont reliées par des enjeux d'inégalité sociale et de conflits économiques. Piltover, la cité lumineuse et prospère, se trouve en opposition avec Zone, une zone plus sombre, plus industrialisée, où les habitants sont confrontés à la misère et à l'exploitation. Mais cette frontière entre le luxe et la pauvreté, entre la technologie et la révolte, n'est pas seulement une toile de fond, elle est au cœur de l'histoire. L'intrigue nous entraîne dans un tourbillon de secrets, de rivalités, mais aussi d'émotions humaines universelles. Au centre de tout cela, on trouve deux sœurs, Vi et Jinx, dont le destin semble irrémédiablement lié. Au fil des épisodes, on découvre leur parcours marqué par des épreuves et des choix, tandis que l'on voit les tensions entre Piltover et Zone monter peu à peu. Les personnages sont profonds. Chacun d'eux a une histoire à raconter, et derrière les conflits extérieurs, ce sont leurs luttes intérieures qui prennent véritablement le devant. Lorsque l'on parle de Vi, qui lutte pour protéger sa famille, ou de Jinx, prise dans un tourbillon de folie, tout est question de rapport humain, d'amour et de perte, d'espoir et de désespoir. La série ne se contente pas d'offrir des personnages archétypaux, elle s'aventure dans des territoires plus complexes où il n'est pas toujours facile de distinguer le bien et le mal. Chacun a ses raisons, ses motivations et ses failles. Ce qui distingue Arcane des autres séries animées, c'est son incroyable animation. L'esthétique visuelle d'Arcane est tout simplement époustouflante. Il s'agit d'un mélange innovant entre animation 3D et 2D, avec des décors soignés et peints à la main, des personnages de design unique et une fluidité d'animation qui rend chaque mouvement et chaque combat d'une intensité rare. Oui, parce qu'il faut s'attendre à pas mal de combats quand même, c'est assez violent. C'est le studio français Fortiche qui en est à l'origine, de cette nouvelle technique d'animation. Pendant 5 ans, jusqu'à 300 personnes ont travaillé à la création visuelle de la première saison. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner la bande-son, qui est elle aussi exceptionnelle. Il y a des compositions originales accompagnées de nombreux morceaux d'artistes comme Imagine Dragons, qu'on vient d'écouter, et qui viennent renforcer l'impact émotionnel des scènes et qui contribuent à l'immersion dans cet univers à la fois brut et magnifiquement détaillé. Le rythme de la série est aussi à saluer. Arcane prend le temps de développer ses personnages et son histoire, ce qui permet aux spectateurs de s'attacher réellement à ce qui se joue. La narration est bien construite, avec des cliffhangers parfaitement dosés, mais jamais au détriment du développement de l'intrigue ou de la psychologie des personnages. Bref, Arcane est une série animée qui fait bien plus que raconter une histoire de pouvoir et de révolte. C'est une exploration des liens familiaux, des dilemmes moraux, de la quête d'identité et des répercussions de la société sur nos choix. Donc la saison 1 de 9 épisodes a été diffusée à partir de novembre 2021 sur Netflix. La saison 2 sera disponible le 9 novembre prochain. J'ai trop hâte.
Merci beaucoup Nathalie. Eh ben, que de séries à regarder. Là, on en a présenté donc 7. Je vais vous les rappeler les titres. Donc il y a eu La Roue du Temps, Tokyo Vice, Battlestar Galactica, Designated Survivor, Si... Le monde n'existe pas et Arcane, que des séries passionnantes. Et vous retrouverez la liste de ces séries sur notre site internet. Vous avez encore jusque demain pour découvrir l'exposition de photos de l'artiste néerlandais Diederik Wijmans sur la ville d'Arona en Italie. Le Club Fab Lab se réunit demain à la bibliothèque Mourichon avec des ateliers entre 14h et 18h. L'entrée est libre et sans inscription. Demain également à 14h30, vous pourrez assister à une conférence des espaces cyberbases et des bibliothèques. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre consommation? C'est animé par Daniel Delestré. Samedi 26 octobre, à partir de 14h, nous vous proposons un atelier musique, électro et poésie animé par Ben Abekassis qui proposera une démo concert et vous permettra de participer. Et le 16 novembre, ce sera notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque à partir de 11h et notre prochaine émission sur les ondes de Graphite le 22 novembre à 18h. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à notre nouvelle chroniqueuse Jessie qui a très bien réussi son premier passage. Et merci beaucoup à Nathalie et encore merci à Aurore pour sa participation et la technique et tout pour sa présence. Et nous vous souhaitons à tous un très bon week-end.
Bon week-end.